Europe 1, il est 8h.
On a tellement de gens en fait qu'on n'a pas assez de matériel disponible. Du coup, les soins sont des fois sont faits à l'arrache. Moi perso, je me prépare à soigner là-bas.
SOS hôpital sous tension à Mayotte où arrive d'ici quelques minutes Emmanuel Macron. La très forte pression migratoire met en surchauffe tout le système de santé de l'île.
Il s'estime déconsidéré et stigmatisé. Nouvelle journée d'action des agriculteurs pour tenter de retisser le lien avec les consommateurs. Un numéro vert a été mis en place par des producteurs afin de répondre à toutes les questions.
Oui, bonjour.
Oui, bonjour monsieur, je vous appelle parce que j'ai une petite question concernant le glyphosate.
Le glyphosate, il a souvent été détourné de son utilisation initiale.
8h15, votre invité politique, Sonia.
Il a été ministre de l'Agriculture, il connaît les défis et les angoisses des paysans. Dominique Bussereau, également président des départements de France, mon invité à 8h15.
Rien n'y fait, l'exaspération des Libanais ne retombe pas. Après les mesures d'urgence annoncées par le gouvernement, leurs revendications restent inchangées.
Tout le peuple est présent, la barrière de peur a été brisée pour la première fois. Nous sommes présents pour demander un État, un vrai État.
Le chaos au Chili, 12 morts depuis le début des émeutes, couvre-feu, état d'urgence, le pays face à une fronde sociale d'une ampleur jamais vue depuis la fin de la dictature Pinochet.
8h01, bon réveil à toutes et à tous sur Europe 1.
Europe 1. Le journal Mathieu Béliard, Sonia Mabrouk.
Un département français où la moitié de la population est étrangère. À Mayotte, où Emmanuel Macron devrait atterrir d'ici une demi-heure, la question de l'immigration clandestine reste le motif principal de la profonde colère de la population. En s'y rendant, le président veut mettre en avant son virage régalien sur cette question migratoire hautement sensible.
En attendant, la population, elle, souffre du faible développement économique de l'île. Illustration à l'hôpital de Mamoudzou, hôpital totalement débordé. Le reportage de notre envoyé spécial européen, Jean-Rémy Baudot.
Chaque jour, au rez-de-chaussée du CHM, 300 patients se présentent aux urgences. À 70%, ils sont étrangers, non affiliés, c'est-à-dire sans papier. Confirmation de Delphine Bocho, cadre à l'hôpital de Mayotte.
Ils sortent de leur pays pour venir ici. Je pense pour la plupart des Comoriens. On a un petit peu tout le monde qui vient chez nous parce que tout le monde connaît la situation de Mayotte.
La preuve au deuxième étage, la maternité de Mayotte est devenue la première d'Europe avec 30 naissances par jour. Cette femme comorienne vient d'y accoucher de son quatrième enfant.
Chez moi, si on n'a pas d'argent, on n'est pas soigné. Ici, c'est gratuit. Je n'ai pas le choix.
Une pression migratoire doublée d'un manque de moyens, si l'on en croit le personnel. Au troisième étage, un infirmier du bloc laisse éclater sa colère en repensant à cette jeune patiente diabétique récemment amputée, faute de soins adéquats.
On a tellement de gens en fait qu'on n'a pas assez de matériel disponible. Du coup, les soins sont des fois sont faits à l'arrache, vraiment. Moi, j'ai des trucs au bloc, c'est fait à l'arrache. Moi, perso, je me prépare à soigner là-bas. Si on avait autant de ressources qu'en métropole, il n'y en aurait aucun qui se ferait couper la jambe. Si on avait des chirurgiens vasculaires et des choses comme ça, personne se ferait amputer.
Le CHM de Mamoudzou, un hôpital sous tension qu'Emmanuel Macron ne viendra pas visiter. Mayotte, Jean-Rémy Baudot, Europe 1.
Macron, réponds-nous. Injonction inscrite sur les pancartes des agriculteurs en colère. Nouvelle journée d'action contre la déconsidération dont ils s'estiment victimes. Hier soir, de la paille a été déversée devant l'entrée de la préfecture de la Sarthe. La contestation aujourd'hui devrait prendre des formes similaires.
Et pour lutter justement contre la stigmatisation dont ils affirment être l'objet, les producteurs ont lancé il y a tout juste un mois un numéro vert pour recréer du lien entre les Français et ceux qui les nourrissent.
Vous composez le numéro gratuit 0805 382 382, et là, et à l'autre bout de la ligne, un agriculteur vous répond en direct depuis son exploitation agricole. Maud Descamps a passé la journée avec l'un d'eux dans les Yvelines, en région parisienne.
Oui, bonjour.
Oui, bonjour monsieur, je vous appelle parce que j'ai une petite question concernant le glyphosate.
Assis dans son énorme tracteur, Jérôme Regnault arrête sa manœuvre pour répondre à cette consommatrice plutôt inquiète.
On entend pas mal de choses contradictoires et du coup, c'est plus tellement pour quoi penser.
Le glyphosate, si... Il a souvent été détourné de son utilisation initiale. C'est-à-dire qu'en fait, nos collègues américains et canadiens l'utilisent pour artificiellement faire mûrir leur récolte. En France, ce n'est pas du tout le cas. Le glyphosate n'est jamais utilisé sur quelque chose qui sera récolté. On l'utilise.
Le glyphosate, sujet le plus récurrent sur les 300 appels reçus depuis un mois, mais aussi le bien-être animal ou encore la différence entre le bio et le conventionnel. Pour ce céréalier, le problème est simple, les Français ne connaissent plus leur agriculture.
Ils ont encore cette image de l'agriculture, des pratiques des années fin 70, 80, voire début 90. C'est ça qu'il faut renouer, c'est-à-dire qu'ils aient une connaissance de l'agriculture d'aujourd'hui.
Aujourd'hui, pour recréer ce lien, 130 agriculteurs du bassin parisien répondent au numéro vert. Jérôme Regnault espère l'étendre rapidement à toute la France.
Maud Descamps du service économie d'Europe 1.
Des perturbations encore dans les trains aujourd'hui en Champagne-Ardenne et Pays de la Loire notamment, où seuls 30 à 50% des TER circulent. Et puis le trafic quasi normal sur le reste du territoire, 100% des TGV Ouigo assurés selon la SNCF.
Cette question ce matin, la direction de l'entreprise va-t-elle sanctionner les cheminots après ce mouvement ? Bonjour Rémi Offrère-Privel.
Bonjour.
Vous êtes secrétaire général adjoint de la CFDT Cheminots. Des sanctions ont déjà été annoncées.
Écoutez, nous on regrette beaucoup cette attitude de la direction parce que l'heure pour la CFDT est à la négociation et aux échanges pour trouver des solutions immédiates pour la sécurité, pour assurer les conducteurs de train et les contrôleurs.
Vous avez la voix prise, on l'entend, Rémi Offrère-Privel. Je ne sais pas si c'est parce que vous avez crié fort vos revendications. Malgré tout, est-ce que vous allez contester ces éventuelles sanctions ?
Eh bien, écoutez... Certaines d'entre elles sont sans doute contestées et contestables. D'ailleurs, il y a un débat assez intéressant entre les juristes aujourd'hui, entre les différents avocats et entre les inspections du travail, puisque une inspection du travail a d'ores et déjà indiqué que pour elle, les droits de retrait effectués par les agents individuellement étaient justifiés.
Aujourd'hui, s'il y a des retenues sur salaire, et c'est ce que risquent les agents de la SNCF, elles pourraient intervenir juste avant la mauvilisation du 5 décembre.
Tout à fait. Tout à fait. Bah, écoutez, c'est un encouragement pour certains de mener les cheminots pour le 5 décembre et pour les jours au-delà. Donc, si la direction veut jouer l'apaisement, elle n'a pas intérêt. Elle n'a pas intérêt d'agir ainsi.
Merci Rémi Offrère-Privel. L'avertissement ce matin du secrétaire général adjoint de la CFDT Cheminots dans le journal de 8h.
C'est une opération très délicate qui débute aujourd'hui à Rouen. Près d'un mois après l'incendie de l'usine Lubrizol, des centaines de fûts de produits chimiques vont être progressivement traités et éloignés du site. Direction à présent, tout autre chose, sur la scène internationale, le Liban. Le gouvernement a présenté hier des mesures d'urgence pour tenter de calmer la colère de la rue. Pas de nouveaux impôts en 2020, les salaires des ex-ministres et députés réduits de moitié, de nouvelles taxes sur les banques.
Insuffisant pour les manifestants. Ils sont toujours des dizaines de milliers rassemblés dans les rues de Beyrouth et du reste du pays, avec des revendications clamées haut et fort.
Tout le peuple est présent. La barrière de peur a été brisée pour la première fois. Nous sommes présents pour demander un État, un vrai État. Donc, on veut un gouvernement transitionnel avec des prérogatives spéciales.
Ils se sont enfermés pendant 72 heures ce week-end pour essayer de trouver de nouvelles solutions. Mais les Libanais ne les croient plus. On leur a donné 30 ans et ils ne nous ont rien apporté. On a besoin d'électricité 24 heures sur 24, d'une eau propre, d'un système de santé pour les personnes âgées. On demande une vie meilleure ici, c'est tout ce qu'on veut.
Moi, j'ai 19 ans et mes demandes sont simples. Trouver un travail après mon diplôme. Pourquoi une fois diplômé, je devrais penser à émigrer comme tant d'autres ? Pourquoi mon pays ne fait pas ce qu'il faut pour me garder ici ?
Témoignage recueilli hier soir à Beyrouth au micro de Nicolas Feldman pour Europe 1.
Rien ne va plus au Chili, explosion de la colère sociale. 12 morts lors d'émeutes provoquées par la hausse du prix du ticket de métro. L'état d'urgence est en vigueur. Le président réunit aujourd'hui les partis politiques pour tenter de trouver une sortie de crise.
Bonjour Vincent Hervouet.
Bonjour.
Le moins que l'on puisse dire, c'est que la situation est explosive.
Le Chili, c'est le pays des volcans, des tsunamis, le champion du monde des tremblements de terre. Il n'y a pas toujours de signe avant-coureur et personne n'a vu arriver les émeutes qui secouent le pays. Autant la colère a été prévisible en Catalogne, en Algérie, au Liban, à Hong Kong, en Équateur ou en Bolivie cette nuit aussi, autant la fureur des Chiliens a pris le monde de court. Le président Piñera vantait son pays oasis de stabilité. Désormais, il prétend faire la guerre à ceux qui veulent détruire la démocratie. Il assume le couvre-feu, les arrestations massives, les militaires qui patrouillent en ville, toutes ces mesures qui rappellent Pinochet. Et du coup, ceux qui veulent une revanche sur l'histoire chantent « El Pueblo Unido » comme au temps d'Allende. Alors c'est une illusion d'optique. Le métro Santiago est le même qu'à Paris, en plus propre et en plus moderne. Le billet coûte 1 euro. Le prix a augmenté 3% en janvier, encore 3% la semaine dernière. Cette hausse a fait enrager les étudiants. Elle a été annulée, mais trop tard. Les émeutiers ont attaqué 78 stations et en ont détruit plusieurs. quelques centimes d'augmentation vont coûter 300 millions de dollars. 3 millions de passagers quotidiens iront à pied ou en taxi. La classe moyenne se rebelle, les étudiants endettés, des retraités qui ne joignent pas les deux bouts, mais c'est elle, comme toujours, qui paiera les pots cassés.
Des explosions sociales un peu partout, donc, dont au Chili. L'éclairage international de Vincent Hervouet, c'est tous les jours dans le journal de 8h. Merci Vincent.
Europe 1. Nicolas Sarkozy, de retour. Nicolas Sarkozy qui représente la France. On va vous donner quelques détails dans un instant. Ça se passe au Japon dans la suite du journal de 8h.
Europe 1, il est 8h12. La suite du journal, Mathieu Béliard, Sonia Mabrouk.
Nicolas Sarkozy reprend du service. Là, Mathieu, on marque un temps d'arrêt, mais on dit rapidement que c'est pour représenter la France. En déplacement à Mayotte, Emmanuel Macron ne peut donc pas se rendre à la cérémonie d'intronisation du nouvel empereur du Japon, Naruhito. Il a donc naturellement pensé à un profil idéal pour le remplacer.
C'est donc l'ancien président de la République qui a été choisi, et c'est sans surprise, hein, puisque l'on sait que les deux hommes entretiennent de très bonnes relations, Adrien Beck.
Il est connu à l'international, c'est un bon client et ça évite d'envoyer un sous-ministre. Pour ce proche d'Emmanuel Macron, Nicolas Sarkozy a le profil idéal pour représenter le chef de l'État à l'intronisation du nouvel empereur du Japon aujourd'hui, à l'investiture de la présidente géorgienne l'an dernier. Nouvelle mission diplomatique et nouvelle preuve de complicité entre les deux hommes. Pas du tout, ou plutôt pas seulement, dit-on. Nicolas Sarkozy considère qu'il a des devoirs en tant qu'ancien président, confie un de ses proches, comme en écho à ce conseiller d'Emmanuel Macron. C'est très bien qu'on puisse mobiliser les anciens présidents. Ils le font en Allemagne, par exemple. Sollicitation d'autant plus facile que la relation Sarkozy-Macron est plus que cordiale. Cette mission avait aussi été proposée à François Hollande, qui n'a pas donné suite officiellement pour des raisons d'agenda. À l'Élysée, on assure dans un sourire qu'on ne désespère pas d'arriver à le convaincre de représenter un jour son ancien conseiller.
Adrien Beck du service politique d'Europe 1.
Et puis les fans de Tolkien peuvent avoir le sourire ce matin. La Bibliothèque nationale de France ouvre une immense rétrospective dédiée à l'univers de l'écrivain britannique.
Vous connaissez le pays des Hobbits ou encore... Oui. Ou encore la terre du milieu.
Vous êtes familière de cet univers.
Rassurez-vous, je ne vais pas vous faire un quiz ce matin. Mais c'est un véritable voyage, Mathieu, auquel vous êtes conviés évidemment tous nos auditeurs. Il suffit de suivre le guide. Et pour l'occasion, quel guide ? Il s'appelle Nicolas Caro pour Europe 1.
L'exposition et donc le voyage commence par la Comté, le pays des Hobbits, et se termine dans le Mordor, le fief de Sauron, le seigneur des ténèbres. 1000 mètres carrés et 300 pièces présentées pour une promenade à travers la Terre du Milieu, le territoire inventé par Tolkien. Inventé un peu par hasard d'ailleurs. Tolkien racontait ses histoires d'elfes et de hobbits à ses enfants, et pour leur donner un peu plus de réalisme, il dessinait les personnages, mais aussi les lieux, comme cette carte que nous présente Vincent Ferré, l'un des commissaires de l'exposition.
La carte de travail du Seigneur des Anneaux, à la fin des années 30, et on voit comment, à partir de la carte qui comporte plusieurs feuillets, se déploie le voyage que Tolkien n'avait pas prévu à l'origine.
Et si l'on continue le voyage, on tombe sur quelques surprises, on assiste au processus de création du Seigneur des Anneaux.
Des notes dans lesquelles Tolkien s'interroge sur le nom à donner au personnage, donc on apprend que Frodo a failli s'appeler Bingo, et puis il se demande est-ce que l'anneau va être utile.
Les fans seront servis, la plupart des documents présentés sont inédits, on peut voir aussi le bureau de l'écrivain, les néophytes, eux, découvriront un nouveau monde.
Donne envie, hein, ce guide, Nicolas Caro du service culture d'Europe 1.